Alors, au début de ce petit enseignement, nous allons nous mettre sous le regard de Dieu, car Saint Paul nous le rappelle, nous ne savons pas comment prier. Seul l'Esprit Saint qui est en nous crie vers Dieu « Abba, Père ». Seul l'Esprit Saint peut prier en nous, nous faire prier. Nous lui demandons au début de cette rencontre. Ô Seigneur, envoie ton esprit, qu'il renouvelle la face de la terre. Seigneur, ton esprit planait sur les eaux dès la création du monde. Ton esprit plane sur ton peuple pour sa recréation en Jésus. Viens, Esprit Saint, avivez notre intelligence, fortifiez nos cœurs. Ô Seigneur, envoie ton esprit, qu'il renouvelle la face de la terre. Seigneur, au jour de la Pentecôte, ton Esprit Saint fondait l'Église, fondait une communion nouvelle entre tes disciples. Viens fortifier nos liens fraternels. Ô Seigneur, envoie ton esprit, qu'il renouvelle la face de la terre. Alors l'Esprit Saint nous apprend seul à prier, et pourtant, les apôtres demandent à Jésus, Seigneur, dans Luc, au chapitre 11, Seigneur, apprends-nous à prier. Et Jésus leur répond et leur donne, tout au long du chapitre 11, différents éléments importants, notamment sur la prière de demande. La prière est essentiellement une prière de demande. Demandez et vous recevrez. Et cette prière de demande, elle est centrée sur la prière de demande de l'Esprit-Saint. Demandez et vous recevrez le don de Dieu, l'Esprit-Saint. Donc c'est une prière de demande qui est tout à fait particulière, qui est une ouverture du cœur à l'action de l'Esprit-Saint en nous. Ça, c'est l'enseignement, je dirais, central de Luc 11. Puis vient ensuite la prière du Notre Père. Dans Matthieu, au chapitre 6, l'enseignement sur la prière consiste davantage à la prière dans le secret. Et elle touche du coup spécialement la prière de l'oraison. Si tu veux prier, enferme-toi dans ta chambre, tire le verrou et prie ton Père qui est là dans le secret. Ton Père qui te le revaudra et ton Père te le revaudra. Ou quelque chose comme ça. Nous voyons que pour le chrétien, il y a à la fois dans l'esprit qui rassemble son peuple la prière commune, la prière liturgique et commune, et à la fois la prière qui nous retire à l'écart pour vivre une vie d'intimité, de secret avec Dieu notre Père, loin des regards, loin de la valorisation par les autres, par le regard des autres, mais dans le secret, et que là grandit notre esprit filial, notre connaissance de combien nous sommes enfants de Dieu, vraiment fils et filles de Dieu, de façon expérimentale. Saint Paul nous dit, toujours dans Romains, au chapitre 8, que nous sommes enfants de Dieu et que cela est attesté comment ? Par l'Esprit Saint qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, puisque notre esprit crie vers Dieu « Abba, Père ». Et donc c'est bien dans l'intimité de notre être que nous avons cette confirmation. Elle n'est pas seulement extérieure, en lisant les Écritures ou en écoutant la prédication, elle est d'abord une expérience intérieure où nous nous éprouvons le fait que nous sommes enfants de Dieu, fils du Père, parce que notre esprit s'éprouve comme fils. Il crie vers Dieu, Abba Père. Et ça, c'est l'œuvre de l'Esprit Saint en nous. Alors ces deux aspects de la prière chrétienne, à la fois liturgique et donc eucharistique pour nous, puisque toute la liturgie trouve son centre, son pivot, son sommet dans l'Eucharistie, donc est à la fois eucharistique, on pourrait dire, et privée, secrète, de l'ordre de l'intimité, du secret. L'un et l'autre sont nécessaires. Nous allons voir dans l'enseignement, par après, aujourd'hui et puis dans les deux séances suivantes, que l'Eucharistie nous fait comprendre ce qu'est l'oraison, nous fait comprendre ce qu'est la prière. L'Eucharistie, elle est notre maîtresse, c'est elle qui nous enseigne sur ce qu'est la prière chrétienne. Mais à l'Eucharistie, nous sommes entraînés par nos frères et sœurs, nous sommes pris dans un mouvement, je dirais, du peuple de Dieu. Il peut y avoir toutes sortes de considérations sociales. Si vous avez l'habitude d'aller à la messe avec vos enfants, si un dimanche vous n'y allez pas, les enfants vont se demander, tiens, pourquoi on ne va pas à la messe ? Si vous êtes marié et que vous allez à la messe habituellement tous les dimanches ensemble, ben, si un dimanche vous n'y allez pas, ils vont dire, tiens, qu'est-ce qui t'arrive ? Pourquoi tu ne viens pas à la messe ? Alors on s'entraîne, c'est vrai, on s'aide, et c'est une dimension très importante finalement pour s'entraider, notamment pour les enfants, mais pas seulement. Les parents aussi sont aidés par les enfants finalement. Tandis que dans le secret de la prière personnelle, il n'y a personne pour nous dire est-ce que tu as fait ta prière ? Est-ce que tu as été fidèle au rendez-vous avec ton Seigneur ? Parce que personne ne le sait. C'est ma prière secrète, c'est l'intimité de ma vie. Et donc, la liberté personnelle est engagée d'une manière toute particulière. Si je ne le fais pas, personne ne viendra me dire « Tiens, qu'est-ce qui t'arrive ?» C'est vraiment moi qui le veux. C'est ma vie à moi. Personne ne peut la regarder de l'extérieur. Et donc, en quelque sorte, c'est un creuset. C'est là que se fortifie, que se noue, que s'exerce ma liberté. C'est toujours dans ce qui est en plus que nous voyons où on en est, ce qu'on peut lâcher facilement parce que personne ne pourra rien nous dire. Alors, y a comme une épreuve de liberté plus forte encore que de le vouloir coûte que coûte, même si personne n'est là pour nous remettre dans le droit chemin ou nous rappeler à notre engagement. Ce n'est pas seulement une manière de, comment dirais-je, de nous motiver, c'est en fait un véritable exercice de la liberté. Je me lève pour aller prier seul, et même ma femme ne le sait pas. J'avais un grand-père qui se réveillait la nuit, et qui pendant des années, je ne sais même pas si elle l'a su à la fin de sa vie, je n'en suis même pas sûr. Lui me l'a dit, mais il se levait dans la nuit à l'insu de sa femme, qui prenait un fort mogadon, et que rien ne pouvait réveiller. Et il allait prier entre 2 et 3 heures du matin, toutes les nuits. Sans que sa femme le sache, il l'a dit à son petit-fils qui est rentré au séminaire. Mais non pas pour s'en vanter, mais je pense plutôt pour, dans un échange, je dirais presque fraternel, que nous avions à l'époque. Voilà, c'était sa vie secrète à lui, même sa femme ne le savait pas. Et c'était le pivot, la pierre profonde, son assise, son intimité profonde, qu'il nourrissait, qu'il vivait, et sa liberté qu'il engageait pour le Christ toutes les nuits. Oui, je me lèverai et j'irai vers mon Père. C'est ce qu'il vivait toutes les nuits. Voilà, donc il faut toujours garder en tête ces deux aspects de la prière, à la fois l'aspect liturgique, eucharistique, c'est dans le peuple de Dieu, dans l'acte liturgique, dans le don que le Christ fait de lui-même, dans l'Eucharistie que nous apprenons à prier, mais notre liberté se fortifie, s'exerce, grandit dans la solitude et le secret. Évidemment, l'un et l'autre vont faire système. Si l'Eucharistie enseigne mon oraison, l'oraison me fait être plus libre et donc plus fort dans l'Eucharistie, plus déterminé à suivre le Christ. Vous comprenez ? Je me souviens quand je faisais de l'escrime à mon club, j'étais un grand dadais de 20 ans, pas très musclé. Et donc mon maître d'armes m'a dit, bon, la technique ça va, mais t'es pas assez costaud, il faut vraiment que tu te muscles par ailleurs pour que tu puisses tenir le choc davantage. Alors je me suis mis à faire de la natation, toutes les semaines j'allais faire de la natation. Et donc ça m'a musclé pour pouvoir faire de l'escrime et être plus présent dans le jeu. Mais l'oraison, c'est exactement ça. L'oraison, c'est de la musculature spirituelle qui vous donne d'être beaucoup plus présent à l'Eucharistie. Je dirais plus purement présent. Je le veux, Seigneur, vraiment. Et tu sais que c'est toi que je veux. Parce que c'est toi que je vais chercher dans le secret. Voilà. Vous comprenez ? Voilà, donc c'était une petite introduction sur la nature, je dirais, de la prière en deux aspects. L'aspect à la fois liturgique et communautaire, et puis l'aspect personnel et comme exercice de liberté. De même que la liturgie est la liturgie du Christ, c'est nous qui entrons dans sa liturgie, dans sa prière, dans son mystère. Nous ne faisons pas la liturgie, nous ne l'inventons pas, nous ne la construisons pas, nous n'organisons pas une prière communautaire, mais nous entrons dans un mystère qui n'est pas le nôtre, que nous recevons et auquel nous sommes invités et même incorporés. Et on pourrait dire que la liturgie est tout entière l'œuvre de Dieu. D'ailleurs, c'est ainsi que l'appellent les moines. La liturgie, c'est l'opus Dei, c'est l'œuvre de Dieu par excellence, dans laquelle les hommes sont incorporés pour entrer dans cet acte du Christ, pour faire comme le Christ, faire dans le Christ, faire par le Christ, en lui, par lui, avec lui. Achevons-nous la prière eucharistique, enfin, les prêtres achèvent la prière eucharistique et tous les fidèles répondent ou chantent Amen. Mais de même, l'oraison est tout entière l'œuvre de Dieu. Mais elle va se jouer dans le consentement libre et réfléchi de mon être à cette œuvre de Dieu en moi. Oui, Seigneur. Je veux être là pour toi. Je prends du temps pour toi. Que j'ai des idées géniales ou que je n'ai aucune idée. Que mon cœur palpite de joie et d'émotion à cette prière ou qu'au contraire je sois dans une sécheresse totale. Que je sois dans un véritable éveil, pleinement présent ou au contraire tout ensommeillé, tout alourdi. Je suis là pour toi, Seigneur. Je consens à ton œuvre en moi. Je t'ouvre mon cœur pour que tu œuvres au plus profond de moi. L'oraison, comme l'Eucharistie, est d'abord un consentement. C'est un consentement sponsal. C'est le consentement de l'épouse à l'époux, de l'épouse Église à son époux le Christ. Mais c'est un consentement qui mobilise, ou qui peut mobiliser, tout notre être. Je veux de tout mon être te dire oui. Je mobilise tout ce que je peux pour m'ouvrir ton cœur, pour être présent à ta parole, présent au souffle de ton esprit en moi. Je convoque mon corps qui va m'aider en lui donnant des positions, en le faisant se lever, se mettre à genoux, se prosterner, lever les mains ou les joindre. Je mobilise mon intelligence, notamment en lisant et en comprenant la parole de Dieu. Je mobilise mon cœur au sens romantique du terme, même mon affection, mon émotion, pour toi. Bon, elle est là ou elle n'est pas là, mais en tout cas, je veux être de tout mon être pour toi. Donc c'est un consentement qui demande un engagement maximal de la liberté. Nous ne sommes pas des plantes vertes. Nous ne poussons pas simplement parce que nous sommes sous le soleil et dans l'eau. Le soleil de Dieu réclame de notre part une ouverture de la fleur, réclame de notre part un acte de liberté. Alors, comme tout ce qui est humain, cet acte de liberté réclame de l'exercice. Ce n'est pas parce que j'avais fait 2 longueurs de piscine que j'avais trouvé une musculature suffisante pour pouvoir tenir mon épée comme mon maître d'armes me le demandait. Il a fallu y aller 2 fois, 10 fois, 50 fois, 100 fois. Les choses se sont faites peu à peu. Comme toute chose, vous savez, en notre humanité, tout est objet d'exercice. Et à tous les niveaux, bien sûr physique, mais aussi psychique, et aussi intellectif. Et aussi même de nos émotions. La maîtrise de nos émotions, eh bien ça demande du temps, ça demande de l'exercice. La maîtrise de notre intelligence, de notre mémoire, demande aussi du temps, de l'exercice, etc. Je pense pour la dimension psychique, par exemple, à l'investissement que l'on peut avoir ou que l'on peut faire dans un instrument de musique. Il ne s'agit pas seulement de maîtriser parfaitement son corps et d'avoir une parfaite technique, il s'agit aussi d'investir psychiquement, émotionnellement, son exercice avec cet instrument pour que quelque chose de notre émotion, de ce que nous vivons au plus profond de nous-mêmes, se donne à connaître par l'instrument. Il y a aussi tout un exercice, pas seulement physique et d'habileté, mais aussi psychique. Et de même pour nous, on peut connaître la technique de l'oraison, les techniques du corps, maîtriser les choses, mais il faut encore habiter cela, et ça demande des mois, des années, pour habiter cet espace, ce temps que nous avons avec le Seigneur. C'est un peu comme un... Enfin, je lis ça dans les romans, puis j'entends des confidences. Mais je pense qu'un couple vit des choses comme ça, où peu à peu on s'habitue l'un à l'autre, où il y a comme une osmose sur certains points qui se font. Enfin, c'est pas du tout fusionnel, mais il y a des choses qui font que, eh bien, sur certains points, on habite l'autre pour une part. Et voilà. Sans idéaliser, hein. Les prêtres idéalisent toujours la vie de couple. Hein. De même que vous idéalisez la vie consacrée, vous devez imaginer en extase permanente devant un crucifix toute la journée. Le soir, je lis plutôt du Simenon et j'aime bien voir un policier, donc vous voyez, c'est pas des extases extraordinaires. C'est Saint Jean qui, dit-on, dit la tradition, pour se détendre, jouait avec une petite poule. Il avait une poule de compagnie, si j'ose dire. C'est un peu gênant pour Saint Jean, l'évangéliste, j'en conviens. Le grand jésuite qui a rédigé une bonne partie du catéchisme de l'Église catholique, tous les soirs lisait un Agatha Christie ou un Simenon. Enfin, voilà, on a besoin de ces moments d'étendre. Ça fait partie de l'humanité, c'est très important pour l'équilibre de pouvoir vivre ces moments-là. Et on a chacun nos petites affaires. Alors, je disais qu'il faut mobiliser, c'est vrai, les différentes composantes de notre être dans l'oraison et que cela va se faire dans le temps, dans l'exercice, comme justement notre oui plaigner, qui est notre oui au Christ, qui peu à peu s'organise, s'installe, s'ancre, s'enracine, et puis traverse notre histoire. Il est évident que si nous tombons gravement malades, eh bien, notre prière, notre oraison va traverser cela aussi et elle ne sera plus tout à fait la même après. Voilà, ce que nous traversons dans notre vie fait partie de notre intimité aussi spirituelle. Et C'est notre vie qui devient aussi prière. Mais à l'inverse, l'oraison et la prière régulière modèlent aussi notre corps, notre psychisme, notre intelligence. C'est dans les deux sens. C'est très étonnant. Bon, je vous parle beaucoup de choses de moi, mais bon, ça donne des petits exemples. Je connaissais un prêtre qui, par discrétion, ne disait jamais que c'était lui. Il disait que c'était quelqu'un de « je connais quelqu'un qui ». Et en fait, c'était à chaque fois lui. Puis, c'était mon père spirituel. Et puis au bout d'un moment, j'ai compris que c'était lui. Donc il avait beau dire, c'est pas grave. Moi, là, je joue franc jeu. Et quand j'étais prêtre à Paris, j'ai eu des petites difficultés dans mon ministère à un moment, c'était un peu plus difficile. Et donc mon évêque, pour m'aider, m'avait demandé d'être suivi par un coach professionnel qui établissait mon profil, alors c'est un peu d'entreprise, mais mon profil, etc. Bon, on a fait tout un travail avec un coach de renom. Et il m'a dit, chez vous, c'est très étonnant parce que vous avez un profil qui part complètement dans ce sens-là, plutôt hyper créatif et machin. Et en même temps, vous avez quelque chose en vous que normalement on ne trouve pas dans ce genre de profil, qui est exactement à l'opposé, qui est la stabilité, la espèce de grande persévérance, stabilité. Alors il trouvait ça étrange, et donc il m'en parle, et je lui ai dit, mais je me demande si ce n'est pas la pratique de l'oraison. Et lui, tout de suite, a dit, oui, certainement, depuis combien de temps faites-vous ça? J'ai eu 25 ans, tous les jours. Il m'a dit, mais certainement, qu'un exercice au niveau, un tel exercice, entre une demi-heure et une heure, tous les jours, de méditation, façonne aussi un psychisme, déploie des aspects d'un psychisme qui peuvent être écrasés par un autre aspect ou qui peuvent être peu développés par un autre aspect qui se développe plus naturellement. J'ai comme une plante qui se développe davantage d'un côté que de l'autre. Mais cet exercice, au contraire, a pu développer, c'est vous, cet aspect-là. Et donc, là, j'ai pu voir qu'effectivement, l'oraison, sur des années, façonne un psychisme. Le façonne, mais en l'équilibrant, en le rassemblant, en l'unifiant, en le fortifiant. Même chez des psychismes assez blessés. Bon, on est tous plus ou moins cabossés. Hein. Ça, c'est vrai. Il faut avoir 20 ans pour croire qu'on n'est pas cabossé. Puis, en vieillissant, on se rend compte un peu de l'étendue des dégâts. Mais on apprend à les gérer. C'est l'avantage. Et justement, l'oraison est un lieu formidable pour apprendre à vivre avec son propre psychisme et à trouver un équilibre. Alors c'est vrai qu'il y a cet aspect purement psychique, et puis il y a l'aspect spirituel de la rencontre avec la personne du Christ, qui toujours nous accueille, est présent, est là. Et cette stabilité du Christ à nos côtés, avec nous, favorise beaucoup cet équilibre. C'est très différent. Oui, j'étais à l'hôpital il n'y a pas très longtemps, il y avait des exercices de sophrologie. Maintenant, c'est dans l'hôpital, hein, c'est assez impressionnant. Hein. J'avais eu un petit accident cérébral, tous les gens qui avaient eu un accident cérébral, ils étaient autour d'une table. Et puis, on leur a fait faire de la méditation, à l'hôpital public, hein, c'était Bichat. Et donc, on prend une position de méditation, assise, ils nous apprennent à trouver à gérer un peu la respiration, je ne sais plus exactement comment, mais voilà, bon, donc un truc assez classique. Et puis, on nous demande de nous souvenir d'un endroit qu'on a bien aimé. Et puis, peu à peu, d'entrer dans cet endroit, d'y revenir et d'y être présent. Comme une manière donc, de se fixer son attention sur un souvenir précis, et donc d'unifier notre être psychique, intellectuel, corporel, dans ce moment, pour être présent à ce lieu. Bon, alors je suis le truc, et je me suis dit, c'est pas mal. Mais si ce lieu était la personne même du Christ vivant, ressuscité, c'est quand même beaucoup mieux. Et alors moi, j'ai pris un lieu au bord de la plage, en Bretagne, une petite pointe là, formidable, où j'aime courir le matin. Et je me suis dit, sur la plage, elle n'est pas vide. Sur la plage, il y a le Christ ressuscité qui m'attend. au petit matin de Pâques. Ça change tout, en fait. Donc, les mécanismes psychiques, si vous voulez, sont les mêmes. On va les retrouver dans différentes religions, d'ailleurs, notamment le bouddhisme, mais pas seulement. Mais seulement, celui que nous rencontrons, c'est pas le même. Pour la sophrologie, il n'y a personne. Pour nous, il y a une personne vivante qui nous accueille, qui est là, au plus profond de nous, au plus profond de notre cœur. Ça change tout. Mais cette dimension psychique est très importante. Je le mesure avec les enfants de Saint-Joseph, parce que je vais visiter régulièrement les classes, où je passe entre une demi-heure et une heure avec chacune des classes. Donc je réponds à toutes leurs questions, et c'est toujours passionnant. Je fais ça de la maternelle au CM2. Et à la fin, maintenant, je leur dis, maintenant on va faire un petit voyage. Un petit voyage sans bouger de votre chaise. Et je leur donne des éléments de base, justement corporels et psychiques, pour entrer en méditation. Et ça se fait en quelques minutes, donc c'est vraiment en toute petite heure. Et je commence par leur dire, faites attention aux bruits qui sont autour de vous. Ah, là vous entendez la classe d'à côté, vous entendez le ventilateur du projecteur, vous entendez un bateau qui passe sur la Seine. Et puis ensuite, je leur dis, écoutez le silence qu'il y a entre les bruits. Écoutez le silence qu'il y a derrière les bruits. Alors on prend le temps de faire ça, et puis je vois bien qu'il y a des enfants qui entrent là-dedans, qui entendent le silence, qui écoutent le silence pour la première fois. Et puis ensuite seulement, je leur dis que dans ce silence, Dieu est présent et qu'on peut le rejoindre au plus profond de nous-mêmes. Mais si on ne fait pas ce petit chemin, ils vont avoir, la plupart, le plus grand mal à un accès à leur intériorité. Le plus grand mal. Donc la dimension psychique et physique et corporelle de préparation, qui peut être en commun avec d'autres religions, a une importance très grande. Il ne faut pas négliger. On peut dire on est chrétien, mais si on ne connaît pas, si on ne se connaît pas soi-même, si on ne sait pas entrer en soi-même un minimum, eh bien on ne peut pas le rencontrer. On le rencontre de façon très superficielle. En tout cas, on n'aura pas l'occasion de faire une vraie rencontre, une expérience du Christ, une expérience de Dieu. Ouais.